Bonjour, et c'est une joie pour moi d'être avec vous ce matin. C'est vrai qu'il y avait une période où on se voyait assez régulièrement, et puis la vie a fait que, il y a quelques années, que je n'ai pas eu le privilège d'être parmi vous. Je compte comme un privilège toujours les occasions que le Seigneur me donne d'être avec des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur et pour qui la parole de Dieu a un vrai sens. Et ces dernières années, le Seigneur m'a permis de voyager un petit peu plus, de visiter plusieurs églises régulièrement. Et c'est un enrichissement de vivre des cultes différents de ce qui se passe à la rue de Châteaudun, parce que nous adorons le même Seigneur, mais que nous avons aussi nos façons de faire. Et ça fait du bien aussi de vivre cela avec vous ce matin. Je compte aussi comme un privilège de pouvoir ouvrir la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais vous proposer un texte, donc je vais vous lire dans Actes 17. Alors, Eric ne m'avait pas parlé de l'avant, donc je ne rentre pas dans le thème, mais vous verrez que la vérité de Dieu est une, et qu'il y a certainement des choses dans ce que nous allons entendre ce matin qui nous ramènent à ce Dieu qui donne. Donc, Actes 17, je vais vous lire à partir du verset 22, et je lis ce matin dans la NBS. Donc, Actes 17, 22. Debout, au milieu de l'Aréopage, Paul dit, « Hommes d'Athènes, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux. » On peut aussi traduire plutôt « superstitieux ». En passant, en effet, j'ai observé vos objets de culte et j'ai même trouvé un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est cela même que moi je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des sanctuaires fabriqués par des mains humaines. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. C'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. D'un seul être, il a fait toutes les nations des humains pour que ceux-ci habitent sur toute la surface de la terre dans les temps fixés et les limites qu'il a instituées, afin qu'ils cherchent Dieu, si tant est qu'on puisse le trouver en tâtonnant. Pourtant, il n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous vivons, que nous nous mouvons et que nous sommes. C'est ce qu'ont également dit quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi sa lignée. Si donc nous sommes la lignée de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'imagination des humains. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu enjoint maintenant à tous les humains, en tout lieu, de changer radicalement, parce qu'il a fixé un jour où il va juger toute la terre habitée selon la justice, par un homme qu'il a institué, et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le relevant d'entre les morts. Vous avez reconnu donc le discours de Paul à Athènes. J'aimerais m'arrêter ce matin sur un point particulier qui ressort de ce discours. Il est riche, hein, mais j'aimerais faire un zoom ce matin. Si je devais donner un titre à ce que je veux partager, j'appellerais ça « Servir le Dieu qui n'a besoin de rien ».« Servir le Dieu qui n'a besoin de rien ». Alors l'apôtre s'adresse ici en premier lieu à des païens qu'il qualifie de plutôt superstitieux, je vous rassure. Ce matin, je ne veux nullement insinuer que vous leur ressemblez. Mais j'ai une confession à faire. J'ai moi-même lu ce chapitre maintes et maintes fois en me disant que ce discours s'adressait seulement à des païens superstitieux. Et en admirant l'art et la manière de Paul, qui était tellement doué pour mettre le message unique de l'Évangile, qui ne change pas, à la portée de toutes sortes de personnes, et ici donc de Grecs amateurs de philosophie. Et c'est vrai qu'il y a là tout un sujet d'étude et de méditation de ce discours. Mais un jour, je me suis réveillé. Et peut-être à la énième lecture, je ne sais pas combien de fois j'avais lu ce texte, avant qu'un jour le Seigneur m'aide à comprendre qu'aux Athéniens, Paul a dit la vérité. Paul a dit la vérité. Ce n'est pas parce qu'il parlait à des païens superstitieux qu'il avait le droit de leur raconter des bêtises. Ce n'était pas son genre, d'ailleurs. Et le thème de son exposé à Athènes, on pourrait le résumer comme cela, connaître Dieu tel qu'il est vraiment. Ces Athéniens, ils avaient des dieux. Ils croyaient connaître ces dieux d'une certaine façon. Et Paul a souligné le fait qu'ils avaient tellement peur de se tromper qu'ils avaient même élevé un autel à un dieu inconnu. Connaître Dieu tel qu'il est vraiment. Si c'est cela le thème, eh bien ce serait folie de dire que cela ne me concerne pas ou que cela ne nous concerne pas. Si le contexte est bien l'évangélisation de païens éduqués, philosophes, qui s'intéressaient à une certaine vérité, c'est la véracité des propos de Paul ici qui fait que nous ne pouvons pas nous y dérober. Il y a ici quelque chose que nous devons capter. Le Dieu que nous prétendons connaître et servir est tel que Paul l'a présenté aux Athéniens. Et il y a dans ce discours ce que je vais appeler une pépite, hein, une de ces vérités qui brille et qu'il faut absolument garder dans notre cœur. Et c'est quelque chose que je crois que j'ai longtemps voulu ignorer. Vous savez, il y a des vérités qu'on accepte facilement, et puis il y en a d'autres qui nous gênent quelque part, peut-être, et qui sont facilement laissées de côté. Mais, bien sûr, une fois que le Seigneur m'avait mis le nez sur cette vérité, il a bien fallu que j'y réfléchisse et aussi que je l'assimile pour moi-même. Je veux parler de cette phrase qui, pour moi, est lourde de sens dans le verset 25. Dieu n'a pas besoin d'être servi par des mains humaines comme s'il lui manquait quelque chose. Alors, ça n'a l'air de rien comme ça. On peut la lire vite, cette phrase, et passer à la suite. Mais si on s'y arrête, si on y ouvre son cœur, on se rend compte que c'est de la dynamite. Comment vous faites, vous, pour servir ce Dieu qui n'a besoin de rien? Apprendre que Dieu n'a besoin de rien ni de personne, c'est peut-être, du moins sur le moment, d'abord une déception. Peut-être même une grosse déception. Et j'aimerais donc parler d'abord de cette grosse déception. Alors, mon intention ce matin est bien sûr de vous encourager, et j'espère bien y arriver. Mais je ne peux pas ne pas parler de cette déception. Cette grosse déception qui est le point de départ d'une immense bénédiction. Mais la déception découle en premier lieu du fait que quelque part au fond de moi, j'aimerais que Dieu ait besoin de moi. Nous aimerions peut-être être un petit peu indispensables à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu ferais si nous n'étions pas là? Alors sans doute qu'il ferait tout bien mieux et plus vite. Mais ce n'est pas ça que nous avons envie d'entendre. Le Seigneur est celui qui n'a besoin de rien. Notre besoin de nous sentir indispensables ou peut-être irremplaçables, c'est quelque chose qui fausse notre vision de Dieu Et quand notre vision de Dieu est faussée, même un peu, ça fausse notre relation avec lui, notre façon de vivre avec lui. Et ça fausse forcément aussi notre service pour lui. Alors les propos de Paul sont, comme toujours, nourris à la source des Écritures. Ces Écritures étaient bien sûr notre Ancien Testament. Je prends juste un exemple du genre de texte que Paul avait peut-être dans la tête, hein, en arrière-plan de ce qu'il dit ici. Je pense au livre d'Esther et à la sagesse de Mardoché. Mardoché était l'oncle d'Esther, donc qui est devenu elle, la reine ou l'impératrice à cette époque-là, quand Israël était menacé par un ennemi dangereux et qu'elle était dans à une place dans la société qui lui donnait une influence. Et vous connaissez sans doute cette fameuse question que Mardoché fait poser à Esther. « Qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice ?» Qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice? Qui n'a pas envie d'être la personne clé au bon endroit au moment opportun? C'est moi. Tout repose sur moi. En fait, ce n'est pas tout à fait comme ça que Mardoché voyait les choses. On connaît bien cette question. Donc, il a posé à Esther, on connaît peut-être moins bien, en tout cas, ma mémoire sélective a beaucoup plus de mal à retenir ce qui lui a fait dire par la suite, quand elle a reçu aussi ce message de son oncle, « Si tu persistes à garder le silence, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs pour les Juifs. » Il y a des situations où c'est à nous de faire ce que Dieu veut que nous fassions. Mais ici, nous avons quand même une révélation de comment ça marche. Dieu n'est jamais à court de solutions. Il n'est jamais pris au dépourvu, même pas par nos défaillances, et même pas par nos désobéissances. On pourrait dire, nous avons un Dieu qui a toujours un plan B, et sans doute aussi des plans C, D, eux, etc. Alors, quand on essaye de vraiment d'ouvrir son cœur à cette vérité, c'est notre orgueil qui prend un coup. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Vivre conscient de servir un Dieu qui n'a besoin de rien est une des clés de l'humilité. Et sans humilité, il n'y a pas de service agréable à Dieu. Merci donc à Paul pour cette petite phrase qui dynamite notre orgueil qui est souvent mal placé. Pour approfondir la déception, c'est de pire en pire, pour approfondir la déception, acte 17, 25, sonne pour moi aussi le glas de tout espoir d'influencer, de manœuvrer, ou de manipuler le Seigneur dans le sens de ce que je veux. Paul conteste dans ce discours la notion païenne du service des dieux. Et il emploie un verbe qui, dans le vocabulaire chrétien et partout ailleurs dans le Nouveau Testament, est utilisé avec le sens de soigner ou de guérir. C'est le mot qui nous a donné « thérapie » en français. Mais il l'utilise parce que dans le paganisme, ce mot était couramment employé pour le service des dieux. Et le mot révèle quelque chose au sujet de la vision qu'avaient ces païens de comment servir leur dieu. Oui, effectivement, ils pensaient qu'ils devaient les soigner, ces divinités capricieuses. Il fallait être aux petits oignons pour ces dieux, prévenir leur moindre désir, les bichonner si on voulait espérer obtenir quelque chose en retour. Parce que c'est ça, le fond du paganisme, c'est « je te soigne, tu me soignes ». Et Paul s'élève contre cette idée-là. Pourtant, quand on lit l'Ancien Testament, on se rend compte que le peuple d'Israël a eu beaucoup de mal à ne pas calquer son service pour Dieu sur le service des nations païennes qui l'entouraient. Souvent, Israël a été tenté de regarder son service pour le Dieu vivant, dans le tabernacle, ensuite dans le temple, comme les païens regardaient les choses. Et il y a beaucoup de textes dans l'Ancien Testament où les prophètes essayent de rappeler le peuple à une vision plus saine des choses. J'ai choisi juste un texte ce matin que j'aimerais souligner, c'est un extrait du psaume 50, et c'est Dieu qui parle. Alors c'est un de ces psaumes ironiques. Vous savez, Dieu a aussi un sens de l'humour. Et dans ce psaume, Dieu s'adresse à Israël. Et il dit, « Si j'avais faim, te le dirais-je à toi ? Si j'avais faim, est-ce à toi que je le dirais ? L'univers est à moi et tout ce qu'il renferme. Vais-je manger des taureaux gras ou m'abreuver du sang de bouc ? En sacrifice à Dieu, offre donc ta reconnaissance. Accomplis envers le Très-Haut les vœux que tu as faits. » Seigneur lui-même réfute ici l'idée qu'on peut le nourrir avec des sacrifices pour attirer ses bonnes grâces. Et il dit, mais la bénédiction et la délivrance sont pour ceux qui ont un cœur reconnaissant et obéissant. C'est tout ce que je demande, un cœur reconnaissant et obéissant. Et ça, c'était une bonne nouvelle, parce que si la bénédiction et la délivrance sont pour ceux-là, elles sont à la portée de chacun. Et pas seulement à la portée de ceux qui avaient les moyens d'offrir un taureau bien gras. Nous ne pouvons pas acheter les faveurs de Dieu. Mais je me suis rendu compte au cours de mon ministère pour le Seigneur que les chrétiens les plus sincères peuvent se laisser aller parfois à chercher des moyens de pression à exercer donc sur le Seigneur lui-même. Et on voit de tout. Juste trois exemples qui sont des choses vécues. Il y a ceux qui espèrent qu'un gros don, une œuvre missionnaire rendra Dieu favorable à leur petit projet personnel. Il y a, et ça c'est un problème courant, ceux qui se démènent dans une activité effrénée en pensant, sans le lire, que Dieu le leur rendra. Seigneur, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu peux au moins me donner cette petite chose que je te demande. Et puis, il y a ceux qui, comme moyen de pression, confondent le jeûne public avec une sorte de grève de la faim. J'ai eu un copain, quand j'étais jeune chrétien, qui un jour m'avait dit, j'ai décidé de jeûner jusqu'à ce que le Seigneur réponde à ma prière. J'ai dit, bien, et c'est quoi ta prière ? Je vais jeûner, je ne mangerai plus jusqu'à ce que le Seigneur fasse comprendre à cette jeune fille que je veux l'épouser. Bon, le Seigneur connaît notre cœur et il a compassion de nous. Mais tout cela est voué à l'échec, car fondé sur une vision fausse de l'Éternel. Et à la mentalité du donnant-donnant, du « tu me soignes, je te soigne », Paul oppose la bonne nouvelle du Dieu qui donne. C'est peut-être là qu'on rejoint le thème de l'avant. Le Dieu qui donne et donne et donne encore. Il dit, Dieu donne à tous la vie, la respiration. Et là, il se rend compte qu'il est parti dans une énumération qui serait sans fin. Comment faire le tour de tout ce que Dieu donne ? Donc, il résume. Et toutes choses. Dieu donne toutes choses. Nous ne pouvons ni nourrir, ni enrichir, ni manipuler le Seigneur. mais nous n'avons pas fini de découvrir le Dieu qui donne. Passé la déception qu'on a pu ressentir devant la découverte du Dieu qui n'a besoin de rien, Actes 17, 25 apporte aussi, on pourrait dire, un soulagement, un profond soulagement. Alors, je ne voudrais pas rester sur un quiproquo, alors je précise, ce n'est pas le soulagement de découvrir qu'on ne peut pas servir Dieu, et donc que nous n'avons rien à faire que nous tourner les pouces à manger, boire et nous divertir en attendant le retour de Jésus. Ce n'est pas ça le soulagement. On ne peut pas raisonnablement prétendre que Paul nie toute possibilité de servir le Seigneur. Ce n'est pas ça son propos. Je pense d'ailleurs à comment il présente sa propre vocation. Dans les débuts de ses lettres aux Romains et aux Galates, il se présente comme Paul, esclave de Jésus-Christ. Et dans son témoignage devant Agrippa, il révèle que le Seigneur lui a dit, je cite Actes 26, « Je te suis apparu pour que tu sois mon serviteur. » Et puis, on pourrait penser aussi à des tas d'exhortations de Paul hein, dans les Épîtres, Romains 12, 11, « Servez le Seigneur !» Colossiens 3, 24, « Servez Christ le Seigneur !» Donc Paul n'est pas en train de se contredire, même s'il ne parle pas ici à des chrétiens, mais en premier lieu à des païens. Il avait bien compris qu'on ne peut bien servir le Seigneur qu'en acceptant de le servir tel qu'il est vraiment. Seigneur du ciel et de la terre, à qui il ne manque rien. L'apôtre dira, vers la fin de son parcours, quand il quitte les anciens d'Éphèse, c'est acte 20. J'ai servi le Seigneur en toute humilité. J'ai servi le Seigneur, mais en toute humilité. Mais je crois qu'il y a pour nous un immense soulagement dans le fait que c'est Dieu qui donne tout. Et on devrait, je pense, méditer là-dessus. Nous sommes parfois pris par l'idée que il faut que, et si je ne fais pas ci, et si je n'arrive pas à faire ça, Dieu est celui qui donne. Et il est celui qui porte. Il donne et il porte. Il porte le poids du monde. Il porte le poids de l'Église. Il porte le poids de la famille. Et il porte le poids de ma vie. J'ai déjà souligner que Paul connaissait bien les Écritures. Et je pense que il y a derrière sa vision de Dieu ici aussi, sans doute, l'enseignement qu'on trouve dans Ésaïe 46. Alors, je ne vais pas vous lire le texte d'Ésaïe 46, mais si vous avez un petit moment, reprenez ce texte délicieux où Ésaïe parle de toute la différence qu'il y a entre les dieux qu'on porte et le Dieu qui porte. Encore une fois, il y a beaucoup d'ironie dans Ésaïe 46. Il parle des pauvres bêtes sur lesquelles on charge les idoles. Elles sont fatiguées de porter ces dieux. Et puis Dieu qui dit, c'est moi qui vous porte depuis toujours, depuis la naissance, depuis le début, c'est moi qui vous porte. C'est intéressant le contraste entre ces fausses divinités qui sont lourdes, qui sont voraces, qui chargent ceux qui veulent les suivre, qui asservissent, on pourrait dire, qui sucent la vie, l'énergie vitale de leurs adeptes. Et puis en face, il y a le Seigneur qui porte, qui soutient et qui libère. C'est ce que Ésaïe souligne, qui porte, qui soutient et qui libère ce Dieu qui donne. C'est peut-être une petite parenthèse, mais j'aimerais quand même dire que tous ceux qui veulent vraiment servir le Seigneur seront sans doute confrontés un jour ou l'autre à la tentation de trop porter. C'est quelque chose que, je suis sûr, vous avez pour beaucoup déjà vécu, cette tentation de trop porter. Alors parfois, nous nous chargeons nous-mêmes. Voilà, la seule chose à faire, c'est de se mettre à genoux devant le Seigneur et de lui dire, mais de quoi est-ce que tu me charges et de quoi est-ce que je me suis chargé sans que cela soit ta volonté pour moi. Mais parfois, ce sont aussi les autres qui nous chargent. Hein. C'est, ben, tu fais si bien les choses, tu peux aussi faire ça. Vous connaissez ça aussi, sans doute. Hein. Il n'y a pas que dans notre Église que ça se passe parfois comme ça. Mais que ce soit que nous sommes chargés nous-mêmes de choses que le Seigneur ne nous demande pas de porter ou que les autres nous chargent, nous devons toujours nous rappeler que le Père de Jésus-Christ est le Dieu qui décharge. Le Seigneur Jésus a dit lui-même, et vous le connaissez par cœur, ces paroles de Matthieu 11, « Oui, mon joug, parce qu'il y a un joug, donc un service, mais mon joug est facile. » Et la charge que je vous impose, parce que oui, il nous impose une certaine charge, mais la charge que je vous impose est légère. Et lorsque nous nous chargeons, nous laissons charger de fardeaux que le Seigneur ne nous demande pas de porter, encore une fois, notre vision de Dieu se déforme. Si nous devons dire c'est trop lourd, eh bien il y a quelque chose qui ne va pas. Et quelque chose à voir avec le Seigneur pour remettre les choses en place. Et peut-être pour faire le tri, et peut-être aussi pour apprendre à dire non. Pas non à Dieu, bien sûr, mais non à ces choses qui nous chargeraient sans être dans le plan de Dieu pour nous. Ne laissons pas ces fardeaux qui viennent d'ailleurs déformer notre vision de Dieu et donc aussi notre service. Quel soulagement de nous rendre compte que notre service pour Dieu n'est pas un poids qui nous est imposé, mais un cadeau de sa part. Il donne toutes choses, donc il me donne aussi ma part de service. Et donc, encore une fois, on est dans la période des cadeaux que nous puissions cette année, à Noël, remercier le Seigneur pour le service dont il nous fait cadeau. Cela devrait être un formidable encouragement. Je terminerai avec cet encouragement. Un immense encouragement, en fait. Contrairement aux humains, Dieu n'est ni tenaillé, ni motivé par le besoin. Évidemment, c'est notre vie, ça, d'être toujours à négocier avec nos besoins. Mais Dieu n'est pas dans ce cas. Il se suffit. C'est difficile à comprendre, hein, je l'avoue. Il se suffit. Peut-être que la vision trinitaire de Dieu nous aide un tout petit peu à comprendre cela. Il se suffit. Mais il se suffit et pourtant il crée. Et pourtant il aime ses créatures. Il communique avec elles. Et il va encore plus loin. Il nous invite à collaborer avec lui au service de son Église et de son monde. Dieu n'a pas créé l'homme, il n'a pas racheté et recréé les hommes nouveaux et les femmes nouvelles que nous sommes en Jésus-Christ pour se procurer de la main-d'œuvre bon marché. Non, non. Il a déjà des milliards de serviteurs parfaitement efficaces et parfaitement obéissants en ceux que nous appelons les anges. Mais c'est là qu'il y a encore un mystère. Il désire travailler avec nous. Il désire, Dieu, le Dieu de l'univers désire travailler avec des collaborateurs humains. Et il nous invite à en être. Laissons ce désir de Dieu nous renouveler et nous remotiver. Lorsque Paul et Barnabas sont revenus à Antioche à la fin du premier voyage missionnaire, le texte d'Actes 14 dit ils ont raconté tout ce que Dieu avait fait avec eux. Tout ce que Dieu avait fait avec eux. L'œuvre est l'œuvre de Dieu. Mais il a décidé de la réaliser avec nous. Il n'a pas besoin de nous, mais il nous veut dans son équipe. N'est-ce pas extraordinaire? Il n'a pas besoin de nous, mais il nous veut avec lui. Il y a des ouvriers dans ce monde qui ont l'impression de travailler surtout pour enrichir leur patron ou les actionnaires. Ce n'est pas notre cas avec notre grand patron. En réalité, notre service, lorsqu'il est en phase avec ce que Dieu veut et ce que Dieu fait, nous enrichit. Notre service pour Dieu nous enrichit et on enrichit d'autres. Ça, c'est la grâce. À Athènes, Paul a souligné encore que le Seigneur est celui qui donne à chaque peuple une histoire et un territoire. Il a fixé des périodes déterminées et établi les limites de leur domaine. Je crois que ce qu'il fait pour les nations, il le fait aussi pour son peuple, il le fait pour chaque église locale, il le fait pour chacun de ses enfants. Il écrit notre histoire et il délimite notre domaine. Dieu veut nous donner un domaine d'activité et de service pour lui. À nous de déchiffrer le scénario et de jouer le jeu, d'être pleinement acteur sans jamais oublier qui est le metteur en scène. Est-ce que nous sommes heureux de l'histoire que Dieu nous fait vivre? Pas toujours. Mais Dieu veut que nous soyons heureux de l'histoire qu'il nous fait vivre. Et il veut que nous abordions le prochain chapitre de notre existence quand il tournera la page, la prochaine page. Il veut que nous vivions cela dans la joie, dans la confiance en ce Dieu qui a donné son Fils, et qui continue à donner et à se donner. Je conclus. Servir le Seigneur qui a besoin de rien exige de renoncer à être indispensable, de renoncer aussi à toute idée de manœuvrer le Seigneur dans le sens de nos désirs, de renoncer à l'orgueil qui parfois fausse notre vision. Le Père de Jésus-Christ est le Dieu qui porte et le Dieu qui nous porte et qui donne toutes choses. Et cela nous pousse à envisager notre service pour lui comme un cadeau qu'il veut nous faire. Un domaine d'activité qu'il veut nous confier dans cette histoire qu'il écrit pour chacun de nous. Il veut nous donner tout ce qu'il faut pour enrichir, selon nos possibilités, ce qui nous entoure, ce que nous côtoyons, et en même temps pour être enrichis à travers ce que nous faisons pour lui. Je suis pleinement convaincu qu'il y a encore des tas de choses que Dieu veut faire avec nous. Par grâce.